Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Eh bien, aujourd'hui, le volet de l'émission Mode d'emploi est animé par la Fondation Copernic, comme tous les derniers vendredis du mois. Alors, aujourd'hui, l'émission portera sur la question du patronat. Et nous l'avons appelé le patronat, ses réseaux d'influence, ses liens avec le pouvoir politique. Alors, pour présenter cette émission aujourd'hui, Didier, Mathieu, en studio, ainsi que Claude et Clémence à la technique, comme chaque vendredi du mois. Alors, notre objectif au cours de cette émission, c'est de tenter de faire un peu le point sur la question qui a été largement présente, hein, en particulier lors de la campagne de l'élection présidentielle. Il suffirait pour ça de rappeler un peu les liens étroits qu'entretenait l'ancien président avec les milieux patronaux, et voir le soutien qui a été clairement apporté par la patronne du MEDEF à la candidature de Nicolas Sarkozy, pour voir en quoi, évidemment, les liens entre patronat et pouvoir politique sont étroits, et on en discutera dans cette émission. Mais pour cela, nous avons invité deux chercheurs spécialistes de ces questions. François-Xavier Dudouet, vous êtes enseignant et chercheur à l'Université Dauphine.
Bonsoir.
Bonsoir. Et spécialiste des questions des élites en France. Hein, c'est un petit peu là-dessus que vous travaillez. Et vous avez publié en 2010 un ouvrage sur la question du patronat qui s'appelle « Les grands patrons en France, du capitalisme d'État à la financiarisation ».
C'est cela.
Par ailleurs, nous avons demandé à Frédéric Gray, lui-même spécialiste des relations professionnelles et chercheur au CNRS, qui a lui-même travaillé sur ces questions, donc de relations entre salariés et employeurs, et donc évidemment sur la question du patronat.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, en deuxième partie d'émission, comme de coutume, nous recevrons aujourd'hui une réalisatrice, Anne Kunvari, qui a produit un reportage sur le patronat intitulé « Il était une fois le patronat », documentaire qui a été diffusé en 2010 sur France 5 et qui présente en deux émissions tout à fait passionnantes l'évolution du patronat français du 19e siècle à nos jours, avec dans une première partie la montée de l'État et du rôle de l'État, on en reparlera lors de cette heure ensemble, et dans une seconde partie de son documentaire, l'influence de la finance sur le milieu patronal, sur l'entreprise et le milieu patronal. Donc vous pouvez toujours nous appeler, comme de coutume, au 01 40 05 06 10. Et vous pouvez aussi également retrouver cette émission, comme les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, ou sur le site Mode d'emploi. On va maintenant écouter un petit pause musicale, pas de pause musicale, me dit-on. Donc, on va pouvoir démarrer tout de suite sur nos questions. Alors, comme nous le disions tout de suite, le patronat a été présent en partie dans la campagne présidentielle, mais surtout de manière structurelle. On peut penser qu'il y a des relations entre patronat et pouvoir politique, mais à ce stade de notre discussion, en tout début de discussion, je vous propose qu'on prenne plutôt la question de la représentativité patronale, son mode de fonctionnement, ses réseaux d'influence, pour essayer un petit peu de brosser le paysage globalement, hein, pour que, avant même de rentrer plus dans la question des relations entre patronat et pouvoir politique, on aborde déjà un peu une vision de comment fonctionne le patronat en France. Et j'aurais peut-être, bon, à l'un comme à l'autre, une première question à vous poser. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un patronat ou de plusieurs patronats? Est-ce qu'on a finalement un intérêt commun entre le patronat en France? Ou est-ce qu'on a des intérêts divergents qui peuvent se traduire par des affiliations différentes? Comment tout ça est structuré en France?
Alors, c'est vrai qu'on
François
pourrait dire...
François-Xavier Dudouet.
Nous avons quasiment autant de patronats qu'il y a de patrons, pour exagérer. Mais on peut déjà faire deux grandes distinctions entre les organisations patronales qui représentent les employeurs dans le cadre du dialogue salarial avec les représentants des salariés, Et vous avez les dirigeants d'entreprise compris comme groupe social. Et ces deux ensembles ne se regroupent pas nécessairement. C'est-à-dire que les représentants des employeurs ne sont pas nécessairement des patrons, ni même des grands patrons. Et inversement, les représentants des organisations patronales sont parfois des permanents qui n'ont jamais exercé de fonction dirigeante.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une différence entre, d'un côté, le patronat en tant que, je dirais, le patron d'une entreprise, et celui qui, au sein du MEDEF, de la CGPME, des différentes fédérations patronales, peuvent être des permanents qui représentent l'institution, c'est ça
que
vous dire ?
Oui, absolument. Par exemple, Gauthier Sauvagnac, dont on a parlé pour l'affaire de l'UIMM il y a quelques années, n'a quasiment jamais exercé de fonction dirigeante.
De dirigeant d'entreprise.
Hein, il a peut-être, je crois, quelques années uniquement. Sinon, c'est un inspecteur des finances, hein, sorti de l'ENA, qui a eu quelques fonctions, mais très rapidement au sein de l'État, et qui ensuite a eu des fonctions de dirigeant, mais jamais en tant que propriétaire d'une entreprise à part entière, et qui très tôt est devenu ce qu'on appelle un permanent, hein, des organisations patronales. Et ensuite, chez les patrons comme groupe social, c'est-à-dire vraiment ceux qui dirigent l'entreprise, eh bien, vous avez là énormément de différences entre les grands et les petits patrons, entre les patrons qui sont propriétaires du capital de leur entreprise et ceux qui sont des salariés comme les autres, mais qui ont juste le statut de directeur général. Et donc, vous avez une très, très grande palette, en fait, de situations qui fait que le patronat est finalement très protéiforme, hein, et qu'il faut à chaque fois préciser si on parle des grands patrons, des organisations patronales, des petits patrons, et d'ailleurs les organisations patronales ne s'y trompent pas, hein, puisqu'il y a des organisations pour les petits patrons, pour les artisans, et puis d'autres qui se veulent plus fêtières.
D'ailleurs, Frédéric Rey, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes organisations patronales avec leurs différentes caractéristiques ?
Oui, donc moi je vais complètement abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Hein. Bon, effectivement, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de relations professionnelles, de structuration des relations sociales en France. Par beaucoup d'occasions, j'ai été amené à réfléchir sur cette diversité des organisations d'employeurs, de la réalité de cette population de dirigeants d'entreprise. Alors effectivement, il y a les élites, il y a aussi d'anciens salariés qui se mettent à leur compte, hein, donc des réalités qui sont complètement différentes. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous réunit, sur ce rapport de recherche que nous avons remis à la direction de l'animation de la recherche économique et sociale du ministère du Travail sur les patronats, que nous avons réalisé avec l'Institut de Recherche Économique et Sociale et plusieurs collègues chercheurs. Nous avons, Gaëtan Flocot et moi, un collègue maître de conférence à Évry, illustré cette diversité-là à travers l'étude des clubs de réflexion, des think tanks, des cercles, des fondations patronales. Et ce qui nous a surpris d'une certaine manière, c'est la diversité, l'extrême hétérogénéité des thématiques abordées, des logiques d'action collective, de regroupement, des objectifs, que ce soit, on en parlera, de diffusion d'une logique, d'une philosophie néolibérale, libérale, ou au contraire, plus, on va dire, de responsabilité sociale, que ce soit pour agir en termes de lobbyistes sur l'État, la fabrique du politique, ou au contraire, simplement produire des notes de manière très large et les diffuser très largement. Donc nous, on a rencontré cette diversité, bien évidemment, et pour aller dans le sens de la question sur la représentativité. Ça nous a amené à réfléchir, avec les collègues, sur la distinction qu'on peut opérer entre, d'un côté, la représentativité, qui renvoie à des règles de l'État social, d'une reconnaissance institutionnalisée par l'État, et une légitimité dont les clubs de réflexion, les think tanks que nous avons rencontrés, se réclament sans pour autant tendre vers la recherche d'une représentativité. Donc là, on a une distinction qui est intéressante entre on est légitime à défendre les intérêts de nos adhérents employeurs et une logique de représentativité qui renvoie davantage au dialogue social institutionnel, à la gestion du paritarisme, aux mandats locaux. Et on est sur deux dynamiques assez différentes. Et pour terminer sur ce point-là, dire aussi, par exemple, avec une étude que j'ai réalisée sur le temps partiel dans l'hôtellerie-restauration. Par exemple, l'hôtellerie-restauration a 5 organisations syndicales patronales représentatives. Une 6e les a rejoints. Et la question de la représentativité est aussi un levier qu'utilisent les organisations patronales les unes par rapport aux autres pour se mettre, disons, temporairement en difficulté ou s'accuser de ne représenter personne que soi-même, etc.
Mais ce qui veut dire que, quand même, la vision qu'on a, je dirais, quand on ne connaît pas... quand on ne connaît pas aussi bien que vous ces domaines, c'est plutôt celle d'un patronat relativement homogène qui défend des intérêts assez, assez convergents. Alors évidemment, il y a la figure du MEDEF qui vient coiffer un peu tout ça. Ce que vous nous dites là, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, on est plutôt dans une configuration où on a des intérêts qui peuvent diverger. Qui peuvent se positionner sur des problématiques différentes. Est-ce que c'est bien ça que vous dites ?
Oui, en fait, les organisations patronales ressemblent aux syndicats de salariés. C'est-à-dire, elles sont en compétition les unes avec les autres. Elles ont des problèmes de légitimité. Elles sont en compétition pour se répartir les postes au sein des organismes paritaires. Qui va présider
dont on sait par ailleurs qu'ils sont parfois très, très juteux du point de vue financier.
Alors, est-ce que c'est juteux pour eux ? Il faut pas voir ça forcément comme un enrichissement personnel, mais plutôt comme une façon...
Non, j'entends, oui, effectivement, j'entends pas personnel.
Voilà, de rémunérer des militants.
Voilà,
de placer des gens qui sont dans son organisation. Donc, c'est plus en termes de ressources.
On a beaucoup parlé, en particulier, de tout le domaine de la formation, hein, dont on dit qu'il est très fortement...
C'est encore un autre problème, puisque là, il y a des organismes qui sont pas forcément dépendants des organisations syndicales ou patronales, qui, eux, vivent de la formation. Donc là, c'est encore un autre problème.
C'est vrai.
Voilà. Et on parle souvent du MEDEF dans les grands médias. Quelles sont les autres organisations qui pèsent dans le monde du patronat présenté aux auditeurs
Je vais commencer et puis tu compléteras, Frédéric. Donc, on a le MEDEF qui est en fait l'ancien CNPF, hein, Confédération Nationale du Patronat Français, et qui est très lié, dépend énormément structurellement de l'UIMM, d'accord ?
Donc, en gros, la grosse industrie.
Ce qu'il en reste. Voilà. Parce que, et en fait, l'UIMM, aujourd'hui, est composé d'entreprises qui ne sont pas nécessairement des industries, mais qui a une implantation locale très forte, beaucoup plus que le MEDEF. Et donc, le MEDEF dépend de l'UIMM en termes d'adhérents. Et c'est là où ça a une petite tension. Par contre, vous avez de grandes entreprises.
Sachant, si j'ai bien compris, que l'UMM était également, puis je crois qu'il vient de rendre sa carte, si j'ose dire, était également adhérent de la CGPME.
Alors ça, je l'ai fait, je sais pas exactement. Par contre, vous avez aussi la CGPME,
oui.
Hein, qui, elle, regroupe, comme son nom l'indique, plutôt les entreprises de taille moyenne et moyenne, mais finalement pas mal de moyennes. Et puis, vous avez le dernier, je vais te laisser la parole, je ne sais plus comment il s'appelle.
L'UPA. Très important, voilà. L'UPA, qui représente donc l'Union des professionnels de l'artisanat, qui est intéressante comme organisation à suivre, puisqu'elle a la particularité d'être confrontée au même problème que les organisations syndicales dans son implantation vis-à-vis des petites entreprises. Alors, les entreprises de l'artisanat, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Le bâtiment, hein, qui représente beaucoup de monde de l'artisanat, les métiers de l'alimentaire, la coiffure, etc.
C'est plutôt des TPE, alors.
Voilà, ce sont des TPE, vraiment, moins de 10 salariés, avec la question compliquée de l'implantation, de la représentation, d'aller au contact de ces très petites entreprises, et qui ont été en conflit, et là on rejoint encore cette question-là, pendant une dizaine d'années, avec le MEDEF et la CGPME sur la question, disons, pour le dire rapidement, de création de commissions régionales qui étaient destinées à favoriser le dialogue social dans les entreprises de l'artisanat et qui prévoyaient une petite cotisation patronale. Et il y a eu 10 ans de bataille juridique entre le MEDEF et la CGPME contre l'UPA pour savoir qui représentait qui collectait et pourquoi.
Voilà, surtout qui collectait. Alors, à ces organisations qu'on va... dire généraliste, vous avez d'autres organisations qui sont moins connues, dont fait souvent moins attention,
et
qui sont
pourtant
essentielles, pardon,
comme peut-être autant d'influence,
alors qui ont beaucoup plus d'influence, mais sur un autre domaine, qui sont en fait les organisations sectorielles. D'accord. Notamment, les conventions collectives, elles sont aussi négociées, et parfois plus souvent, par ces organisations sectorielles. Les organisations du bâtiment, les organisations de des métiers de l'alimentation, de l'agroalimentaire, l'hôtellerie-restauration. Bah, on l'a bien vu, l'hôtellerie-restauration dernièrement, ce que ça a donné. Donc, il y a aussi ces organisations-là qui sont plus sectorielles et qui, finalement, croisent, sans forcément les chevaucher, les grandes organisations généralistes dont on a parlé. Et voilà, donc vous avez un paysage qui est finalement très protéiforme.
Alors je rajouterais une interrogation, parce que justement en vous lisant les uns et les autres, enfin l'un et l'autre, j'ai remarqué que par ailleurs le patronat, enfin un patron d'entreprise peut très bien adhérer à plusieurs organisations. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, non, cette multi-appartenance. C'est pas du tout classique, je dirais, dans le monde syndical ouvrier.
Non. Ça montre un rapport assez pragmatique à l'adhésion. Moi, sans être spécialiste de cette question de l'adhésion patronale, enfin des employeurs, disons, à une
des employeurs
patronale, voilà. Je sais que pour beaucoup, il y a une recherche un peu utilitaire de services, d'informations que rendent d'ailleurs les organisations patronales, qu'essayent de rendre ces organisations-là. Donc, on peut effectivement adhérer à une branche professionnelle, une organisation de branche dont on vient de parler, l'organisation interprofessionnelle, MEDEF, etc.
Chambre consulaire.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains employeurs qui sont adhérents à une structure, disons, locale, on va dire, régionale, ou sectorielle, sont, par l'intermédiaire de l'adhésion au MEDEF de ces structures-là, adhérents au MEDEF sans le savoir. Donc, on a toute une variété de configurations et de cas sur cette question de l'adhésion, de la multi-adhésion. Et nous, on l'a rencontré aussi sur les clubs de réflexion et les think tanks.
D'autant, si je peux rajouter un dernier mot, qu'il y a l'adhésion au nom de l'entreprise. Les entreprises peuvent être adhérentes et les individus peuvent être adhérents. Donc, vous avez des salariés qui peuvent être adhérents au MEDEF et très bien se retrouver au prud'homme tout en étant adhérents au MEDEF, parce qu'ils ont été virés, tous directeurs qu'ils sont, et qu'eux, ils contestent les modalités de leur licenciement. Donc, voilà, il faut voir les choses de manière très, très souple.
Bien, bah écoutez, après, on va peut-être se prendre une première petite pause musicale. On va écouter, si vous le voulez bien, Camarade bourgeois de Renaud, ce qui est quelque part un petit peu présent dans la thématique d'aujourd'hui. Bien. Eh bien, nous reprenons cette émission consacrée aujourd'hui au patronat avec deux invités, François-Xavier Dudouet, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, enseignant et chercheur à Dauphine, et Frédéric Rey, qui lui est spécialiste de relations professionnelles et chercheur au LIS. Alors, on a terminé un peu cette première partie sur le patronat et ses modes de représentation. J'ai envie de vous poser une question, et je la pose plus directement à François-Xavier Dudouet, sur, en gros, les ouvriers adhèrent à telle ou telle organisation syndicale. On a vu, dans le développement du syndicalisme en France, en particulier, qu'on est, en tous les cas, certain de dire qu'on est passé d'un syndicalisme finalement un peu revendicatif et de lutte à un syndicalisme de service. On pense en particulier à la CFDT qui joue beaucoup ce rôle de service auprès de ses adhérents. Est-ce qu'on a un petit peu la même démarche pour le patronat en France? Est-ce qu'on a un patronat qui adhère pour des raisons de service, qui est rendu par l'association? Ou est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on peut, quel est l'intérêt en gros pour un patron d'adhérer aujourd'hui au MEDEF, à l'UPA ou à la CGPME?
Historiquement, les organisations patronales ont été constituées pour offrir des services. En termes d'information, de défense, d'abord de défense contre la concurrence étrangère, surtout, c'était d'abord ça, au XIXe siècle. Aujourd'hui, on adhère, pourquoi? J'ai envie de dire, pour les mêmes raisons qu'on adhère à un syndicat salarié, vous voyez. C'est-à-dire, il y a beaucoup de motifs.
Avec parfois, plus de zéro derrière.
Comment?
Avec un peu plus de zéro derrière.
Oui, oui, sans doute. Mais parfois, vous pouvez avoir des cotisations qui ne sont pas très élevées. Hein. Donc, pour,
Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est une bonne question? C'est une cotisation symbolique ou c'est une cotisation importante? Comment est-ce que... Non, là-dessus, vous n'avez pas trop d'informations. C'est pas trop. C'est certainement qui sont assez obscures.
Hein, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça dépend si c'est à titre individuel ou si c'est à titre de l'entreprise.
De l'entreprise, oui, c'est ça. Parce que l'entreprise...
Ça dépend de votre statut, du syndicat, non, enfin, de l'organisation à laquelle vous adhérez. Si c'est l'UPA, c'est pas le même tarif que le MEDEF. Il y a plein de choses. Mais donc c'est un peu plus cher, mais ça peut être beaucoup plus cher, mais c'est pas forcément systématiquement plus cher. Donc on adhère parce que on pense qu'on va pouvoir avoir des opportunités de business, hein, en rencontrant d'autres patrons. On pense qu'on pourra être mieux défendu. On adhère aussi parce que on est un militant. Hein, on pense que les idées qu'on défend sont les bonnes.
Ça veut dire que la figure du patron militant, elle existe parmi ces...
Oui,
parmi
bien sûr. Bah, il suffit d'écouter BFM. Hein. Donc, le militantisme n'est pas réservé à la gauche et aux ouvriers. Non, non. Tout le monde fait de la politique. Hein. Ouais. Donc il y a beaucoup de raisons en fait.
Est-ce qu'on adhère aussi dans ces organisations patronales pour exercer, je serais tenté de dire oui évidemment, mais je vous pose la question quand même, pour exercer un lobbying idéologique sur on a beaucoup parlé pendant un moment donné de la pression qu'exerçait le patronat français sur l'éducation nationale et en particulier sur la question des enseignants, de l'enseignement de l'économie au lycée. Ça a été un lobbying très 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 fort. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus ou...
Alors nous ce qu'on a pu observer on a peut-être pour vos auditeurs préciser un peu le périmètre de cette recherche qu'on a fait donc avec Gaëtan Floco. C'est la rencontre d'une bonne vingtaine de responsables de clubs patronaux, clubs, cercles, fondations à visée de promotion de
qui appartenaient alors donc à différentes fédérations patronales alors.
Non, qui réunissent des adhérents SNCF, RATP, Unilever, donc des entreprises qui vont, et là je rejoins peut-être un petit peu si vous me le permettez la question que vous avez posée sur l'intérêt de l'affiliation. Pourquoi est-ce que la SNCF ou Unilever ou Coca-Cola ou je sais pas, on peut peut-être pas citer de marque, c'est peut-être flouté au montage, mais donc pourquoi est-ce qu'elles adhèrent à des clubs, des organisations pour les services spécialisés, l'expertise, pour aussi certaines le lobbying. Et là, on rejoint la question de la diffusion, la participation au débat public, la fabrique du politique, la diffusion des idées, la défense des intérêts et d'une forme d'idéologie. Nous, c'est un terme qu'on a beaucoup apprécié parce qu'on l'a souvent entendu, qui défend l'amélioration, ouvrez les guillemets, de l'environnement des entreprises.
De l'image de l'entreprise.
Voilà, l'environnement des entreprises, c'est les questions fiscales, juridiques, sociales, etc. Et donc, qui diffuse l'idée qu'il faut alléger tout un ensemble de contraintes ou de dispositifs publics, de politiques publiques considérées ou de fiscalité considérées par les entreprises comme des contraintes et des freins à la compétitivité dans un monde de plus en plus ouvert, global, etc.
Ce qu'on appelle les charges sociales.
Ce qu'ils appellent les charges sociales. Et donc voilà, il y a cette idée de lobbying. Et alors sur la question de l'enseignement de l'économie, nous on a rencontré, alors là c'est une petite anecdote tout à fait intéressante, un responsable d'une organisation qui fédère les entreprises qui ont un intérêt dans la communication. Donc c'est très large, hein, des grandes entreprises qui s'intéressent à la législation principalement sur la publicité, sur la communication. Et cette organisation-là a proposé une formation. Donc on n'est pas allé vérifier si ça s'est fait, ça devait être monté, une formation pour les enfants, un partenariat avec l'éducation nationale, pour les enfants de 6 à 8 ans, d'initiation à l'économie.
À la connaissance de l'entreprise.
Voilà. À la connaissance de l'entreprise. Et donc je pense qu'il faudrait aller regarder de très près le contenu de cette formation, si effectivement le projet s'est concrétisé.
Bien, écoutez, alors je vous propose qu'on passe maintenant un petit peu à ce qui était initialement prévu, donc cette seconde partie de notre discussion. Alors là, on est plutôt sur un sujet qui est celui de, en gros, des relations entre le patronat et le pouvoir politique. Alors, est-ce que là-dessus, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, évidemment, il y a le cas emblématique de Nicolas Sarkozy voguant sur le bateau, sur le yacht de Bolloré. Bon, mais ça, évidemment, c'est un peu l'écume.
Un peu l'iceberg.
Voilà, c'est un peu. Mais est-ce que aujourd'hui, dans un cadre d'une économie mondialisée, est-ce qu'on a toujours cette relation un peu structurelle finalement entre le pouvoir politique et le patronat? Et si oui, par où est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle passe par je crois que peut-être on peut poser la question à François-Xavier Dudouet. Est-ce qu'elle passe par les grandes écoles? Est-ce qu'elle passe par des clubs? Ça, c'est peut-être vous qui pouvez y répondre un peu mieux. Enfin, comment se fait un peu ce lien entre patronat et pouvoir politique?
Alors,
je poursuis ma question. Est-ce que ce lien, il est aujourd'hui le même que celui qu'on a pu observer dans les années 80-90, lors des grandes nationalisations, où évidemment les grands patrons des entreprises nationalisées étaient ceux qui auparavant étaient les grands commis de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui on a la même logique ou est-ce que c'est une logique un peu différente?
Alors je vais partir de la fin de votre question, effectivement, car vous avez eu la gentillesse de citer le livre publié en 2010, mais coécrit avec Éric Grémond, parce que là, c'est une enquête qu'on a fait à deux, depuis de longues années maintenant. Et je répondrai en deux temps. Il y a d'abord un effet structurel, c'est-à-dire le rapport des grands patrons à l'État s'est inversé. Jusqu'aux années 80, dans ce qu'on pourrait appeler le champ du pouvoir, hein, tel que l'a décrit Bourdieu, c'est l'État qui domine. D'accord ? C'est le pôle politico-administratif, c'est les hommes politiques et surtout les hauts fonctionnaires. Ce qui compte avant tout, c'est d'être directeur du Trésor. C'est d'être à la tête de grandes directions centrales. Après, il y a quelques grandes entreprises publiques qui sont intéressantes, mais dans la carrière d'un haut fonctionnaire, ce qui est vraiment important, c'est la direction des grandes administrations centrales, des grands cabinets ministériels. À partir des années 80-90, des mouvements de privatisation, mais surtout de la privatisation de la monnaie. Vous avez l'indépendance de la Banque de France en 1993, les grandes banques de dépôt et de crédit qui sont nationalisées. On rentre dans le système de la zone euro, et à partir de ce moment-là, l'État n'a plus de pouvoir sur la monnaie. Okay, il ne peut plus se refinancer aussi facilement qu'il le pouvait auparavant, et il devient dépendant des marchés.
Là, vous parlez plus de crédit, en fait, que de la monnaie elle-même.
Oui, c'est pareil. Alors, on ne va pas faire un cours d'économie, mais le crédit, c'est de la monnaie. Le crédit, c'est de l'émission monétaire. Hein? Quand je prête 100 euros, quand on est une banque, on ne prête pas 100 euros qu'on encaisse. On prête, en fait, 90 euros qu'on crée ex nihilo. On a 10 euros en caisse seulement. Donc c'est la création de monnaie, le crédit. D'accord. Bon, je passe sur ces questions-là. Mais ce qui est très important pour comprendre le changement du rapport, c'est que jusqu'aux années 80, c'est l'État français qui a la main sur la politique du crédit en France. À partir du moment où la Banque de France est indépendante et que les grandes banques sont privatisées, l'État français n'a plus la main sur l'émission monétaire. Et d'ailleurs, c'est la condition de la construction de l'euro. Ceux qui ont la main sur la construction monétaire, par contre, ben ce sont les nouveaux présidents, les dirigeants des banques privatisées, qui sont, eux, d'anciens hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, vous prenez on a combien de banques cotées au CAC 40? On en a plus que 3, puisque Dexia a sorti. Sur les 3, vous avez 2 inspecteurs des finances qui les dirigent. D'accord. Et le dernier, et le grand assureur qui reste, parce que c'est aussi une institution financière très importante que l'assurance, elle est aussi dirigée par l'inspecteur des finances. Tous sont passés par les cabinets ministériels, quasiment, à part celui de BNP Paribas. Et donc, qu'est-ce qu'on a?
Par des cabinets ministériels
de droite ou de gauche.
De droite ou de gauche.
Il y en a quasiment autant qui sont passés par des cabinets de droite ou de gauche. Aujourd'hui, ils doivent représenter environ entre un quart, entre un cinquième, entre 20 et 25% des patrons du CAC 40, ceux qui sont passés par les cabinets ministériels, et ça se distribue de manière à peu près égale. Donc, en fait, les hauts fonctionnaires, qui étaient au service de l'État jusqu'aux années 80, se sont privatisés avec les privatisations. Voilà. C'est ça, en fait, le véritable changement. Et en même temps, le pouvoir que l'État, la souveraineté que l'État avait sur la monnaie, est passé dans le privé.
Du côté de la banque.
Oui, du côté de la banque privée.
Du côté de la banque privée.
Mais il a toujours été du côté de la banque, le pouvoir monétaire.
Oui, bien sûr.
Sauf qu'avant, elles étaient nationalisées.
C'est ça. notamment privé, évidemment. Ce qui veut dire qu'on a peut-être donc une figure du patronat d'aujourd'hui qui est un peu différente de celui qu'on pouvait connaître dans les années 80-90. Est-ce qu'on a plus aujourd'hui de grands patrons qui, disons, justement, ne passent plus par ces cabinets ministériels, ou est-ce que c'est toujours vrai, ce passage par les cabinets ministériels? Et donc ce lien quand même organique avec l'État.
Alors c'est un lien organique avec l'État, mais c'est un lien organique dans le temps. C'est pas forcément un lien organique simultané. Rien, on peut pas dire que voilà, tous les Bercy prend ses ordres auprès des banquiers. Des relations, notamment en période de crise, mais voilà, les modalités concrètes de la relation.
Mais le passage de l'un à l'autre existe toujours.
Voilà. Par contre, c'est une relation synchronique.
C'est ça. On est à un moment donné, on est dans un cabinet ministériel où on est effectivement dans une grande direction des finances, et ensuite on se retrouve grand patron.
C'est-à-dire
grand patron salarié d'ailleurs. Ça, ce titre-là, on n'est pas forcément, on n'est pas propriétaire, puisque la propriété aujourd'hui, elle est largement diluée dans la finance.
Il y a environ sur le CAC 40, il n'y a que 20% des dirigeants effectifs qui sont propriétaires de l'entreprise.
Le reste, ce sont des salariés.
Évidemment,
dont on a entendu parler les rémunérations qui ont défié la chronique.
Alors oui, ce qui est très intéressant, c'est que les rémunérations des patrons salariés, elles s'élèvent en millions, mais finalement, elles sont très très inférieures à la rémunération du patron actionnaire, qui
bien
lui
sûr
peut s'élever en dizaines, voire centaines de millions d'euros les bonnes années. Mais ça pose pas de problème.
Ça, c'est les dividendes qui sont redistribués chaque année.
C'est-à-dire qu'en fait, la rémunération par les dividendes, finalement, elle choque moins que la rémunération par le salaire.
On en parle moins, surtout.
Frédéric Rey, est-ce que vous avez regardé de manière un peu précise ces réseaux, hein, ces lieux de est-ce que ces lieux dans lesquels se rencontrent les patrons, est-ce que dans ces lieux aussi le pouvoir politique, les dirigeants d'administration centrale, est-ce que là aussi il y a des lieux dans lesquels informels, hein, qui sont pas le fait de passer d'un ministère à une direction d'entreprise, mais est-ce qu'il y a des lieux comme ça informels dans lesquels les patrons rencontrent le pouvoir politique, et qu'est-ce qui se dit dans ces lieux?
Alors peut-être juste avant de répondre, un petit complément pour prolonger la discussion passionnante qui vient de se dérouler. Peut-être aussi rappeler quand même que depuis la fin des la fin des années 70, au début des années 80, jusqu'à aujourd'hui, on a une inversion majeure du rapport de force entre le capital et le travail, une dimension, critique de la question de l'emploi, du dynamisme économique, on le voit aujourd'hui. On voit les effets que peuvent avoir aussi des formes de défiance vis-à-vis des cours intermédiaires ou vis-à-vis de l'État dans sa capacité à être encore un acteur majeur de la régulation dans les résultats des urnes, qui peuvent être inquiétants d'un certain point de vue. Donc il y a quand même une dimension politique, vraiment très sensible dans cette transformation des pouvoirs, dans cette capacité de l'État de défendre encore un intérêt général versus des intérêts particuliers. Donc là, il y a vraiment, on est au cœur d'un enjeu pour les 5 prochaines années qui me semble être vraiment très très important à suivre. Alors nous, on a regardé.
Est-ce qu'on peut dire que finalement l'idéologie managériale a gagné ici de ce point de vue? C'est un peu ça l'idée ou?
Alors, juste un point, si on parle d'idéologie ou du moins de représentation, c'est plutôt la représentation actionnariale et pas managériale. Parce que dans l'histoire de la pensée sur les élites économiques, le managérialisme correspond à l'époque où les dirigeants d'entreprise travaillent pour le développement de leur entreprise et donc pour l'accroissement de la production, y compris la masse salariale.
On retrouve ça très bien, on le verra tout à l'heure avec notre invité, mais on retrouve ça très bien effectivement dans le travail,
dans le documentaire
qui a été produit dont on parlera tout à l'heure, absolument.
Alors quand même, je pense qu'il faut aussi être très prudent sur le rôle que joue encore l'État aujourd'hui, qui est encore important, encore majeur. Si vous rencontrez des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, ils vous parleront encore des 35 heures avec des sanglots dans la voix. Et tout le travail que nous, on a réalisé sur ces questions des clubs et des think tanks patronaux, nous a amené à réviser notre hypothèse de départ que nous avions posée en disant qu'on allait regarder ces clubs puisque nous supposions qu'ils alimentaient le MEDEF et la CGPME en réflexion, proposition, etc. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que le MEDEF et la CGPME, pour ces clubs, hein, qui ont des membres adhérents dans l'entreprise.
C'est quoi ces clubs ? Comment ils s'appellent ?
Alors, on a garanti la confidentialité,
Non, mais c'est pas un problème.
Donc, je tiens parole. Mais du coup, effectivement, ces clubs-là travaillent, non pas le MEDEF ou la CGPME, mais travaillent au corps l'État. Donc, ça prouve bien la centralité de cet acteur-là encore aujourd'hui dans sa régulation des activités économiques. Alors, on a toute une variété de pratiques. Certaines sont connues pour justement être assez, offensives, puisque certains clubs représentant l'essentiel des entreprises du CAC 40 proposent depuis le début des années 80 des textes de loi, des propositions de loi directement au Parlement.
Ils font directement du lobbying.
Certaines passent, certaines ne passent pas, mais vous ne saurez jamais qu'elles ont été proposées et quand elles passent, vous ne saurez pas d'où elles viennent.
On aura le nom du député qui a lancé la loi, mais pas le nom de l'association derrière.
Vous ne saurez pas d'où ça vient.
Qui a convaincu le député.
Voilà. Et ce club-là, cette association-là, est très pragmatique. Très pragmatiste, pardon. Bon. Elle propose, ça passe pas, ok, du lobbying. Il y a aussi tous les petits déjeuners. Donc on produit des notes, on produit des rapports et on invite un colloque, un petit déjeuner, un parlementaire, un responsable de cabinet pour venir lui présenter les travaux, lui donner un peu la parole, réagir. Et donc c'est cette circulation-là qui est peut-être moins visible que les trajectoires des dirigeants entre les responsabilités politiques ou administratives et puis les responsabilités dans les entreprises. Là, c'est un travail un peu plus quotidien, un peu plus invisible, mais bien réel, et qui compte beaucoup, mais sans qu'on puisse vraiment le mesurer. Et ça, nous, ça nous a posé problème sur la mesure de l'influence réelle de ces clubs et de ces organisations.
C'est peut-être d'ailleurs pas tout à fait un hasard, ça puisse difficilement le mesurer, puisque c'est quand même quelque part quelque chose qui est de l'ordre de l'informel et qui n'a pas vocation forcément à être...
On ne désespère pas.
D'ailleurs, c'est un lobbying qui est assez anglo-saxon. C'est une version moderne du lobbying en France. C'était pas forcément celui qu'on retrouvait... Dans les années d'après-guerre, Trente Glorieuses.
Oui, c'est peut-être aujourd'hui davantage, avec une dimension d'expertise, avec une dimension d'apport de connaissances concrètes, de propositions, et donc effectivement quelque chose qui ressemble plus à un travail de think tanks anglo-saxons, même si on n'a vraiment rien de comparable. Hein. Les think tanks français sans aucune comparaison avec leurs homologues nord-américains ou anglais en termes d'effectifs, de recherche, de moyens, etc. Mais quand même, dans la logique de l'expertise, effectivement, nous, on voit émerger et de plus en plus cette figure de club qui se réclame effectivement d'une connaissance très pointue d'un secteur, très pratique, qui a une influence un peu nouvelle, peut-être un peu moins justement... d'influence politique, plus d'influence expertise. Mais le résultat est peut-être le même.
Et le passage de ces grands dirigeants et l'élite politique en France sur les mêmes bancs de l'école, ça joue beaucoup, ça. On se retrouve à l'ENA, on se connaît à X-Pont.
La socialisation par la formation, oui, c'est très important. Alors, effectivement, il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui échappe à une socialisation précoce des élites.
Mais la France est quand même très très marquée par...
Plus. Aux États-Unis, vous avez le système des Ivy League, hein, qui sont les grandes universités, qui contiennent en elles-mêmes des fraternités, voire des final clubs, comme on dit, des sociétés secrètes, et qui sont des lieux de socialisation très 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 importants pour l'élite du pouvoir, comme dirait Mills. Donc... ce qui se passe en France, c'est qu'on a un système qui a été très organisé par l'État. Hein, c'est-à-dire que le système de contrôle de l'aristocratie sous l'Ancien Régime s'est déplacé vers le système des grandes écoles. Voilà. Et c'est par les grandes écoles qu'on produisait une noblesse d'État. hein, nous disait Bourdieu. Donc ça, ça reste. Hein, François Hollande est un HCNA. Hein, il y a ce titre, ça, ce titre. Et bien effectivement,
il a côtoyé.
Il a été condisciple de gens qui aujourd'hui comptent. Hein. Hein, par exemple, au sein du CAC 40, il était de la même promotion que, ou bon, en tous les cas, dans les mêmes années que Henri de Castres, qui est président d'AXA.
Président d'AXA.
À HEC. Voilà. Et on connaît ses liens avec, Jean, avec Jouyer, avec Sapin bon, et d'autres.
Avec Ségolène.
Ça ressemble avec sa femme, absolument. Donc, il y a une socialisation des élites très précoce partout, en France et par le système des grandes écoles. Et notamment des grands corps de l'État.
Alors, peut-être une dernière question avant. On parlait un peu du secret là. Est-ce que c'est facile d'étudier le patronat ?
Ça dépend comment on l'aborde. Hein. Ça dépend, mais c'est pas plus difficile que n'importe quel terrain. C'est ça. Il faut savoir ce qu'on recherche et être patient. Mais outre le fait que c'est une population qui contrôle son discours et qui à ce titre-là est difficile d'accès. On a quand même, par contre, c'est une population qui parle beaucoup d'elle-même, donc on a beaucoup d'informations sans même aller les interviewer.
Ça, c'est plutôt pratique.
Oui, moi je vais complètement dans ce sens-là. Et on a été surpris. On s'attendait à des difficultés. Et en réalité, même parmi, disons, les clubs qui souhaitent le moins communiquer sur leurs pratiques, qui souhaitent rester discrets. On a pu obtenir des rendez-vous très
assez facilement.
Aussi facilement que d'autres acteurs. Donc c'est quelque, enfin voilà, ou que des organisations syndicales. C'est quelques relances quand même. Il faut prendre un peu de patience, mais ce n'est pas plus difficile. Voilà, et ça nous a surpris agréablement d'ailleurs. Et, j'en profite pour remercier, s'ils nous écoutent, tous ceux qui nous ont accueillis dans le cadre de cette recherche.
Je ne suis pas certain qu'ils vous écoutent sur cette radio.
Mais si.
Bien. Mais écoutez, on va peut-être prendre une seconde pause musicale. On va écouter maintenant Rocky Raccoon des Beatles.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with. Come on, Rocky Boy, do 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 do. Come on, Rocky Boy, do 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 do. The story Rocky has done.
Bonjour, bah écoutez, nous allons poursuivre cette émission donc qui porte aujourd'hui sur le patronat et qui est animée par la Fondation Copernic. Je vous rappelle que vous la retrouverez hein, sur notre site fondation-copernic.org et sur le site de mode d'emploi. Nous avons, et c'est normal ce genre de direct, nous avions prévu de recevoir, hein, je vous l'avais dit en début d'émission, Anne Kounvari qui a produit un reportage « Il était une fois le patronat ». Bon, visiblement, elle a des soucis pour nous joindre. Ce n'est pas un problème. Nous avons nos deux invités avec qui nous allons pouvoir poursuivre ce travail. Je vous invite néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, à visionner ces reportages. Ils sont tout à fait intéressants sur justement les sujets qu'on a abordés là ici, hein, qui est un peu le passage d'un patronat lié à l'industrie, à l'entrepreneuriat, un patronat beaucoup plus touché par la financiarisation hein, de l'économie et de l'entreprise. Ça, c'est des sujets qu'on aurait pu aborder avec elle. Elle n'est pas là, ce n'est pas un grand drame. Nous allons poursuivre. Alors, on a deux questions peut-être à vous poser à l'un et à l'autre. On a parlé du patronat, on a vu qu'il avait des intérêts qui n'étaient finalement pas si convergents que ça, mais alors on peut peut-être prendre un peu deux figures opposées de ce patronat. D'un côté, les grands représentants du CAC 40, et plus loin encore, ces liens qui peuvent s'établir aujourd'hui au niveau européen, hein, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, je dirais la France reste aujourd'hui très très présente au niveau européen. Enfin aujourd'hui, on peut difficilement voir les choses du point de vue entrepreneurial sans évidemment se poser la question de l'Europe et voire du monde. Donc est-ce qu'il y a, je m'adresse là à François-Xavier Dudouet, est-ce qu'il y a des lieux aussi, des regroupements d'un patronat, alors qui n'est plus un patronat français, qui sera un patronat européen? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau européen, y compris du côté patronal?
Alors nous sommes effectivement posé la question, à nouveau avec Eric Raymond, mais aussi Antoine Vion, de savoir s'il existait un patronat européen, c'est-à-dire un milieu des affaires au niveau européen équivalent à ce qu'on peut observer au niveau de chaque pays. Alors, lorsqu'on fait l'étude des réseaux des conseils d'administration du CAC 40, on se voit que c'est très dense.
Alors il existe déjà de toute façon une confédération européenne du patronat, déjà.
Oui, mais alors justement, sans, là, en quittant la dimension organisation patronale et en étant uniquement sur l'aspect relations professionnelles, milieu d'affaires. Donc, les relations entre les conseils d'administration. Alors, vous savez que souvent, les dirigeants se copient les uns les autres dans les conseils d'administration et ça fait une belle toile entre les entreprises où, finalement, très peu sont isolés. Et la question qu'on se posait, est-ce qu'on a, finalement, une configuration semblable au niveau européen? Eh bien, non. Finalement, on a une Europe qui est très intégrée. Toutes les entreprises dont on parle, le CAC 40, elles sont au moins mondiales. Elles ont des métiers partout. Souvent, elles sont très, très bien intégrées dans les marchés européens. Et pourtant, il n'y a pas de milieu des affaires européens. Au contraire, on a des petits pôles qui restent en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie. Et par contre, on a quelques relations qui existent, qui ne sont pas insignifiantes, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut observer au niveau domestique. Mais dans ces relations-là, on voit certaines choses apparaître, qui sont en fait l'absorption par le centre. Le centre, c'est quoi? C'est la France et l'Allemagne dans la zone euro. L'absorption par le centre de la périphérie. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, le capitalisme belge est quasiment intégré au capitalisme français. C'est-à-dire que les hommes d'affaires belges entretiennent plus de relations avec les entreprises du CAC 40 qu'avec les entreprises de l'équivalent belge, c'est-à-dire du Belvin. Il y a plus de relations avec les Français qu'entre les Belges.
Ce que vous voulez me dire, c'est qu'on n'a donc pas, au niveau européen. Alors, il y a effectivement des fédérations européennes des syndicats patronaux, mais on n'a pas de lien, disons, de personne à personne. C'est ça que vous voulez dire ?
C'est ça. On n'a pas de lien interpersonnel dans ce qui ferait qu'on aurait un véritable milieu des affaires européens. D'où aussi une explication des atermoiements de la crise aujourd'hui. C'est-à-dire que les milieux d'affaires ne s'entendent pas sur la manière de refinancer les différents États.
Et ils n'ont pas de lieu pour en discuter.
Alors, si, les lieux, il y en a plein. Hein.
Ils ne font pas tellement d'affaires ensemble, en fait.
Comment ?
Ils ne font pas tellement d'affaires ensemble. L'EADS, c'est un peu l'exception.
Alors, l'EADS, ils ont du mal, d'ailleurs, à fonctionner ensemble. S'ils font des affaires ensemble, la France reste quand même le premier partenaire de l'Allemagne. Ce n'est pas ça, le problème. C'est qu'ils ont du mal à faire corps, à constituer un milieu social avec des valeurs et des représentations communes.
Au niveau européen.
Au niveau européen.
Intéressant, voilà. Ça.
On peut faire des affaires sans partager les mêmes représentations, les mêmes valeurs que son alter ego. C'est possible, ça a toujours existé, c'est ça le commerce. Par contre, faire société, ça nécessite d'autres propriétés.
Mais est-ce qu'on a, alors là pour le coup, on parlait tout à l'heure de ce passage entre le patronat du privé et la haute fonction publique. Est-ce qu'on a, de la même manière, un passage entre grand patron d'une entreprise française qui passerait ensuite dans des fonctions dirigeantes en Allemagne ou...
Alors, non, il n'y a pas de marché international des dirigeants de grandes entreprises.
Ça n'existe pas.
Par contre,
vous avez suffisamment
de cas pour qu'on puisse considérer qu'il y a quand même une mobilité au sein du CAC 40.
Il y a un mercato du grand patron quand même.
Tout petit. Par exemple, en France, au sein du CAC 40, on a entre 10 et 20% des numéro 1 qui sont étrangers et on a jusqu'à 30% quand même des membres des comités exécutifs et conseils d'administration qui sont étrangers. Ça, c'est vrai.
Quand même.
Donc, il y a une internationalisation. Mais cette internationalisation ne signifie pas intégration.
D'accord.
Il y a une ouverture à l'international, il y a des échanges internationaux, mais ce n'est pas pour autant qu'on forme déjà une même société.
Il n'y a pas un corps patronal européen.
Non.
Ça viendra peut-être.
Alors, il y a peu de chances, parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, les modes de socialisation, et notamment de formation, restent très nationaux. Donc, les attributs légitimes qui permettent d'accéder à la tête des grandes entreprises restent tato-centrées.
Pourtant, ces grandes universités dont on parlait tout à l'heure aux États-Unis ne jouent pas ce rôle un peu justement de socialisation.
Ah, si, mais c'est un plus. Voilà. C'est comme quand vous faites HEC en plus de l'ENA. C'est bien, c'est très bien, mais c'est un plus. Ce qui compte, c'est l'ENA. Et en France, c'est pareil. Quand vous faites Harvard, quand vous faites Columbia, quand vous faites Stanford, c'est très bien. Mais c'est juste un plus par rapport au système de production des élites nationales.
D'accord. Et ça, c'est un frein quelque part. Enfin, c'est un frein du point de vue, disons, bah, du développement du capitalisme européen ou pas ?
Bah, ça dépend. Si vous voulez une élite transnationale parfaitement intégrée, oui, c'est un frein. Après, si vous voulez garder des particularismes nationaux, non. Donc, mais ça, c'est pas nous qui allons le décider.
Hein. Non, mais je veux dire, dans le cadre d'une internationalisation du capital, ça peut être un frein à cette...
Non, absolument pas. Non. Le capital, au contraire, n'a jamais été aussi bien internationalisé. Et lui se joue totalement de ceux qui le contrôlent. Par contre, il y a des luttes, effectivement, dans l'allocation du capital. Et là, on retrouve les logiques nationales et les logiques de milieux sociaux. Bien. Mais par contre, le capital circule très bien.
Alors, on disait tout à l'heure qu'on a à l'autre extrémité de la figure du patronat, c'est plus le grand patron du CAC 40, mais c'est les petits patrons des PME, voire des très petites entreprises. Et ces gens-là, alors, est-ce qu'ils se retrouvent là aussi entre eux, si j'ose dire, pour élaborer une doctrine, pour travailler sur le développement de la petite entreprise ?
Alors, justement, sur ce point, moi, il me semblait intéressant peut-être de rappeler, et ça reboucle avec le début de l'émission sur cette diversité hein, de la figure de l'employeur, des dirigeants. On a effectivement chez des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés que je rencontre en ce moment dans le cadre d'une enquête, le vrai sentiment d'être dans un autre monde du patronat. Par exemple, le club dont je parlais tout à l'heure, l'association dont je parlais tout à l'heure, elle représente, avec 100 adhérents, plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 5 millions d'emplois. Donc, ce club, quand il tousse, c'est tout l'État qui s'enrhume. Donc, à l'opposé de ça, on a...
C'est le slogan des entreprises de l'artisanat qui disent l'artisanat est la plus grande entreprise de
voilà.
France.
Voilà, à l'opposé, on a plus de 4 millions d'emplois dans des entreprises de moins de 10 salariés, hein, mais dans un ensemble de d'entreprises extrêmement éclatées, très fragmentées, et des employeurs, des dirigeants qui ne se reconnaissent, et alors là, ça a été ma grande surprise, qui ne se reconnaissent pas du tout dans les organisations patronales. Elles ont autant de défiance vis-à-vis des organisations syndicales que des organisations patronales. Que de l'État aussi. Et donc là, on retrouve cet isolement extrêmement marqué. Faire tourner la boutique, faire tourner le commerce, trouver des clients, trouver des marchés, et les questions politiques, les questions d'entente, de club, etc. Alors là, pour eux, effectivement, pour ces dirigeants-là, on en est vraiment très très loin, et c'est une réalité importante qui compte beaucoup. Première entreprise, etc. sont des slogans, mais quand même, derrière, il y a une réalité de cette partie-là du patronat, très isolée des organisations.
Bien, écoutez, je crois que nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette émission qui était, je crois, tout à fait passionnante. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré un peu de temps pour nous. On se retrouvera le 22 juin prochain, donc à la même heure. Le thème, alors, à ce moment-là de cette émission sera « Quelle politique économique de gauche ?» puisqu'évidemment, il y a eu... On n'est pas passé à côté du fait qu'il y a eu un changement de gouvernement. Et la Fondation Copernic vient de publier, ou va publier très rapidement, une note sur cette question. Et nous aurons donc l'occasion d'en discuter donc le 22 juin prochain. Nous vous remercions et donc à bientôt.
Merci.
Crise, épanouie et l'exil, le trésor.